Et à 7h50, on met ses crampons, on s'échauffe pour la grande finale ce soir de l'Euro de foot, Italie-Angleterre, à Wembley, chez les Anglais. Et pour évoquer cette compétition bien particulière cette année, notre consultant Vicente Lizarazu, bonjour.
Bonjour.
Notre champion du monde, vous l'avez aussi remporté cet Euro avec les Bleus en 2000. D'abord un mot de l'affiche de ce soir. Après une compétition pleine de surprises, de coups d'éclat, on retrouve l'Italie et l'Angleterre. C'est une belle affiche.
Oui, c'est une très belle affiche. On a pu voir une forme de renaissance de l'Italie dans un football très offensif, très spectaculaire, sauf en demi-finale où elle a vraiment souffert face à l'Espagne. Mais c'est une très belle équipe d'Italie, très très vivante. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder. C'est vraiment mon coup de cœur hein, sur le plan du jeu, du style. Et puis après, cette équipe d'Angleterre qui elle est montée en puissance, qui est très forte défensivement. Elle a pris qu'un seul but dans cette compétition. Et qui a eu une préparation idéale chez elle, au frais, contrairement à d'autres équipes qui étaient dans la chaleur de Budapest, par exemple, pour la France. Et puis qui joue à domicile. Elle a fait sa demi-finale à Wembley, chez elle, avec ses supporters. Et cette finale, évidemment, où elle sera soutenue par tout un peuple qui attend une deuxième consécration après la Coupe du Monde 66.
L'Italie détentrice d'un titre. L'Angleterre n'a jamais été jusqu'à la finale. C'est plutôt l'Italie qui part favori?
Non, c'est assez équilibré. En fait, l'Italie a eu des difficultés physiques sur la demi-finale. Et vous savez, c'est une compétition comme celle-là, c'est un peu comme le Tour de France. Il peut y avoir des défaillances. Il faut juste espérer que ce soit des défaillances momentanées et pas totales. Je trouve que l'Angleterre chez elle à Wembley a un avantage, même si ma préférence va vers l'Italie sur le plan du jeu.
Je voudrais aussi évoquer avec vous, Vicente Lizarazu, le parcours de la France. Évidemment, oui, c'est encore douloureux pour beaucoup ici. On donnait les Bleus favoris. Une attaque en or massif, Benzema enfin rappelé en sélection et on ne dépasse pas les huitièmes de finale. Une déception immense donc. Hein.
Non, je vais pas dire immense parce que on a raté beaucoup de choses. Il nous a manqué beaucoup de choses.
C'est mérité alors.
Déception immense, c'est quand on est très bon et qu'on est malchanceux sur un match. Mais là, il nous a manqué beaucoup de choses. Je pense que pour aller en prolongation et au tir au but face à la Suisse, c'est que on n'a pas joué à notre niveau. J'ai pas de regrets par rapport à cette compétition. Physiquement, on n'a pas été bien. Les conditions étaient un peu difficiles, mais c'était pareil pour les autres équipes. Et ensuite, on n'a pas senti le collectif, la force défensive que l'on avait en 2018. Donc, ça fait beaucoup d'éléments. Malgré l'arrivée de Benzema, et lui, il a réussi son euro et il a été performant individuellement. Pour le reste, on n'a pas ressenti cette force collective qui était vraiment présente en 2018.
Benzema, on le reverra en équipe de France?
Oui, on le reverra en équipe de France. Son intégration s'est bien faite. Elle a été faite trop tardivement, de mon point de vue, et c'est pour ça que d'ailleurs l'alchimie avec les autres joueurs n'a pas été parfaite, aussi bonne qu'on aurait pu l'espérer. Et je pense que maintenant qu'il est revenu et maintenant qu'ils vont prendre des habitudes à jouer ensemble et accumuler les matchs, ces automatismes vont venir et il devrait y avoir une attaque beaucoup plus performante.
La phase de poule, France, Allemagne, Portugal, Hongrie, on disait que c'était le groupe de la mort, ils se sont tous neutralisés au final, aucun n'a dépassé les huitièmes de finale.
Ouais, il faut croire qu'ils ont démarré la compétition trop fort, parce que le niveau était très élevé. C'est vrai que le Portugal était un des favoris, l'Allemagne aussi, et il a fallu répondre présent d'entrée, donc dans la gestion physique, c'est peut-être pas la bonne solution. On dit qu'il faut monter en puissance, ils l'ont payé, mais voilà, il y a un paramètre physique qui a existé, mais il y a eu aussi d'autres paramètres, des paramètres techniques, des paramètres tactiques.
Tentons un bilan de cet Euro 2020. Oui, c'est le nom officiel, hein, 2020, même s'il s'est, il s'est déroulé cette année. Mais voilà, il était prévu l'année dernière. Pour les 60 ans de la compétition, l'UEFA avait vu grand. Des matchs dans 11 villes, 11 pays, de Bakou en Azerbaïdjan à Saint-Pétersbourg en Russie, de Séville en Espagne à Copenhague au Danemark. C'était une bonne idée, une telle organisation.
Quand ils ont pris la décision, c'était peut-être une bonne idée.
En pleine pandémie.
D'avoir un euro européen. Non, mais pas en pleine pandémie. Quand ils ont imaginé ça, d'avoir un euro européen, on n'était pas en pleine pandémie. Mmh. Évidemment qu'il aurait fallu le réduire à un seul pays ou à deux pays parce qu'il y a eu énormément de contraintes administratives, sanitaires, de déplacements. Ça a été valable pour les journalistes, les commentateurs dont je fais partie.
Racontez-nous justement comment ça s'est passé. Vous avez fait des heures et des heures d'avion.
Oui, enfin c'est pas tant ça. On a fait aussi des heures d'avion au Brésil, en Russie, mais c'est la somme de papiers qu'on nous demandait pour aller d'un pays à un autre, les tests PCR systématiques, des règles qui changeaient d'une semaine à l'autre dans le même pays. Franchement, c'était très compliqué. Et j'imagine nous qui sommes assistés professionnellement, bon, on avait quand même beaucoup plus de facilité, mais pour les supporters, ceux qui se sont déplacés, franchement, je leur tire mon chapeau. Parce que c'était une vraie galère de parcourir l'Europe pour regarder des matchs de foot.
Et entre le 11 et le 28 juin, près de 2000 supporters ont été testés positifs après avoir assisté à un match. Les taux d'incidence remontent dans les villes hautes de cet Euro. C'était dangereux de maintenir cet Euro ?
Mais, oui, évidemment que de se déplacer dans un pays... Dans plusieurs pays et de se mélanger, parce que là aussi je vais vous raconter un peu les coulisses. Il n'y a pas beaucoup de masques dans le stade, les supporters se frottent puisque ils fêtent les buts ensemble ou ils fêtent leur équipe ensemble, ils se mélangent, ils sont au contact, et évidemment que ce sont des endroits qui sont propices à la propagation du virus.
Vous le disiez, les Anglais hein, qui sont en finale ce soir, ils ont eu la chance de jouer 6 matchs sur 7 à domicile. Ça a été un gros avantage pour le coup, pour eux.
Ça a été un gros avantage pour les Anglais en particulier, bien sûr, puisque eux, ils finissent en demi et en finale chez eux, mais
ils sont beaucoup plus frais sur le terrain.
Les équipes qui sont retrouvées en demi-finale ont pu profiter aussi d'un début de parcours chez eux, donc avec des conditions de préparation qui étaient bien meilleures que les autres, dans peut-être leur propre centre d'entraînement. Les Anglais offraient en Angleterre, mais les Espagnols chez eux, les Italiens chez eux au départ à Rome, les Espagnols c'était à Séville. Voilà, et donc c'est vrai que ça a aidé, comme quand on prépare une compétition à domicile, voilà, et les Anglais en ont le plus profité, voilà, donc je pense que eux, ils ont à la fois profité d'être chez eux et en plus de ça d'être au frais en Angleterre, parce que bon, il a pas fait un temps extraordinaire en Angleterre pendant l'Euro, j'y étais, il pleuvait tout le temps.
Au moins c'était bien pour jouer du foot.
Cinq clichés.
Et d'un point de vue écologique, Bichente Lizarazu, je sais que ce sont des questions qui vous touchent, hein. Vous militez auprès de la Surfrider Foundation, tous ces déplacements par avion des équipes, des supporters, est-ce que c'était vraiment raisonnable?
Ah, alors, je pensais que vous alliez parler directement du Qatar par rapport aux aspects environnementaux.
Je vous poserai la question.
Environnementaux,
ensuite, oui.
Pardon. Non, enfin, évidemment qu'on doit commencer à penser à ce type de problème dans le sport. Évidemment qu'on doit commencer à penser à ce type de problème, à réduire les déplacements, mais. Très, très franchement, même pour le confort des gens, réduire les déplacements, et dans le contexte actuel, aujourd'hui voyager, c'est pas une expérience agréable. Ouais. C'est tellement compliqué sur le plan administratif. Franchement, on n'a pas tellement envie de bouger en ce moment. Donc non, c'est sûr que c'était pas l'idéal, mais on a connu des organisations dans un seul pays et qui sont grands, certains pays qui sont grands, où il faut faire aussi des déplacements avec plusieurs heures de vol.
Ce que vous disiez au Brésil. Il y a des enjeux politiques aussi qui sont mêlés cette fois à la compétition. Ça a commencé par la polémique sur le genou à terre, les Bleus qui veulent poser un genou à terre lors du premier match pour dénoncer le racisme. L'extrême droite a hurlé au scandale en France, l'UEFA l'a autorisé. Finalement, les Bleus l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas été suivis par les autres. Il y a toujours des histoires politiques dans ce genre de compétition. On peut parler aussi du drapeau de la communauté LGBT hein, lors du match Hongrie-Allemagne. Et là, l'UEFA refuse l'initiative.
Oui, il y a toujours de la politique dans le foot, bien entendu. Je pense qu'on devrait évidemment traiter tous ces problèmes tout au long de l'année, parce que ces problèmes, on a l'impression qu'ils apparaissent que pendant les compétitions, et pendant les compétitions, les athlètes ils sont concentrés, mobilisés sur leurs enjeux de gagner des matchs. Donc c'est vrai que ça serait bien que tout au long de l'année, en fait, le football s'implique davantage, soit plus présent en organisant des actions, voilà, sur tous les sujets de discrimination. Moi, ce que je remarque, c'est que ça revient toujours sur les grandes compétitions et qu'on sollicite toujours les athlètes dans des moments où c'est peut-être plus compliqué pour eux de
s'engager.
De s'engager, voilà, ouais. Exactement. Alors que en dehors de ce cadre-là, ça serait beaucoup plus facile. Ils pourraient même participer à tout un tas d'actions là-dessus. Voilà. Et je vous le dis en avance, puisque je sais qu'on va parler de ça, au Qatar, on va leur poser aussi la question sur le sujet des stades, sur tous les morts.
Les enjeux écologiques. Ces stades.
Exactement.
Les ouvriers migrants, effectivement, qui sont morts sur les chantiers des stades. Merci beaucoup, Bichente Lizarazu. On doit s'arrêter là déjà. Merci pour votre éclairage ce matin sur Inter. Je rappelle que vous êtes le consultant de Radio France pour le foot. Je vous souhaite une bonne finale ce soir à Wembley, Italie-Angleterre.
Oui, merci.
À 21h. Merci à vous. France Inter.